Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Radio.
Le commentaire de...
Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
Félix, je parlais tantôt avec Jean-François Guérin qui est de retour là, aux affaires judiciaires avec son émission Affaires en cours le week-end à LCN, mais de ce drame épouvantable à Arvida où c'est pas un gars qui a pété les plombs, qui a décidé de tuer ses enfants, mais c'était fait de façon froide, délibérée. Le gars, il a mis la main sur la dynamite, il a placé la dynamite dans la maison pour s'assurer de faire le maximum de dommages. C'est hallucinant, cette histoire.
Oui, il avait accès à de la dynamite aussi parce que c'était un travailleur de mine. Alors, oui, il avait accès, il avait certaines connaissances aussi. Puis effectivement, le moyen qu'il a choisi pour en finir et amener avec lui dans la mort ses enfants est probablement, je veux dire, l'un des pires. et on apprend aussi là qu'il y a eu un signalement hein, aussi à la DPJ dans le passé. Concernant la situation des enfants, ça c'est important aussi à mentionner. C'est quelque chose que on ne savait pas. Les deux garçons avaient fait l'objet d'un signalement à la DPJ du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Et c'est pour ça qu'il y a une enquête aussi de la Commission des droits de la personne dans ce dossier-là. Je trouve ça assez intéressant que cette commission se penche là-dessus parce que ils n'ont pas donné énormément de détails, mais ce qu'ils veulent vérifier, c'est si les droits des enfants sont respectés lorsqu'ils font un signalement à la DPJ et faire des recommandations pour améliorer la qualité des services, fin de la citation. Deux choses là-dedans. La première, c'est que c'est intéressant qu'un organisme regarde si le droit de l'enfant qui devrait être au centre du système est respecté. Chose étrange, par exemple, est-ce que la Commission des droits de la personne va mener une enquête par-dessus une enquête qui a déjà été menée pour un résultat qui pourrait en ressortir mitigé, je me le demande. On a déjà eu la commission Laurent qui a fait un constat assez apeurant des services octroyés à la jeunesse. Maintenant, qu'est-ce que pourrait faire de plus cette commission-là? Voyons.
Écoute, tu veux revenir sur cette histoire hallucinante, digne d'un roman de Jean Le Carré qui fait la page couverture du journal. Donc, c'est un dossier de Jean-Michel Genois Gagnon et de Marie-Christine Trottier.
Mes deux excellents collègues qui m'ont rappelé une histoire que j'avais vue passer, mais brièvement cet été, puis là, ils racontent qu'est-ce qui est arrivé avec cet homme-là qui s'appelle Reza Sarangpour Kafrani, un Iranien qui s'est installé au Québec en 2014, qui est un homme d'affaires, qui a été accusé cet été d'avoir exporté vers l'Iran du matériel qui peut servir à fabriquer des armes nucléaires. Alors là, Jean-Michel et Marie-Christine nous racontent en fait là, la faillite d'une de ces entreprises. L'entreprise, c'est Avilife Lab. Lui, c'est un doctorant à McGill, d'ailleurs. Et là, il a été arrêté à la frontière américaine le 5 juillet dernier, lui avec un présumé complice qui lui serait affilié à l'université iranienne pendant que Kafrani, lui, est doctorant à McGill. Alors, le détail de ça, là, c'est que ils sont accusés, ces deux personnes-là, d'avoir exporté illégalement des machines qui servent à déterminer le niveau d'enrichissement d'uranium. Donc, l'enrichissement d'uranium, bien sûr, c'est pour regarder si on a le matériel pour fabriquer l'arme nucléaire. C'est pas un matériel qui entre dans la fabrication d'une ogive, mais ça te permet de réaliser l'objectif. Alors, donc, Kafrani est arrêté. 4 chefs d'accusation aux États-Unis déposés contre lui. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a un embargo américain envers l'Iran, n'est-ce pas? Blanchiment d'argent. Alors, il a plaidé non coupable. Il attend son procès. Il risque 20 ans de prison. Sauf que là, il est envoyé dans une cellule. Puis là, l'histoire se complexifie. Plus ça avance, il est envoyé dans une cellule près de Washington. Washington, D.C. Et là, on décide de le transférer parce que l'établissement où il se trouve est surpeuplé, puis même le juge américain dit que l'établissement dans lequel il est emprisonné ne rencontre pas les conditions minimales de confinement qui sont prescrites. Ça, c'est pas le juge, mais les U.S. Marshals qui disent ça. Alors, il s'est retrouvé dans le même établissement que ceux qui ont créé l'émeute au Capitole, les partisans de Donald Trump qui ont pris d'assaut le Capitole. Alors, donc, tout ça chemine. Alors, il demeure là jusqu'au 24 novembre. Et là, finalement, le juge accepte de le libérer. Et là, il est assigné à domicile. Il est dans un appartement de la Virginie. Il porte un bracelet GPS. Il remet son passeport. Il peut pas utiliser de téléphone. Il a de la visite le matin et le soir. On l'appelle le midi pour savoir où il en est. Et ce qui est spécial, c'est que ici, au Canada, on croyait que Cafrani représentait des risques de fuite. Mais aux États-Unis, on accepte de le libérer. Bon, c'est sûr qu'il y a une caution. Son ami a versé une caution de 100 000. Lui a versé une caution de 20 000. Les deux peuvent tout perdre si tout ça se passe mal. Mais ce qui est assez intéressant, c'est l'histoire de ce gars-là. Parce que, en fait, en lisant l'article aujourd'hui, puis je vous le donne pas au complet parce que je veux vraiment que vous ayez le lire sur le site du Journal de Montréal. Cafrani, c'est un fils d'agriculteur qui est né à 500 km de Téhéran dans un petit village. Il étudie en sciences d'alimentation, puis là, il fonde un laboratoire de recherche en Iran. Mais là, en 2014, soudainement, il vend tout, puis s'évapore un peu de l'Iran, puis atterrit à Montréal avec sa femme, ses deux filles, puis là, il refonde une entreprise dont la femme est maintenant la gestionnaire. Bref, allez lire ça. Franchement, il faut lire. C'est du travail complet,
Non, comme tu dis, c'est digne de roman d'espionnage. Et les Américains n'y aissent pas là, avec les gens qui font affaire avec l'Iran. On se souvient de Mme Huawei. Là. Ils ont demandé au gouvernement canadien de l'arrêter parce que justement, elle avait supposément fait des affaires avec l'Iran alors que les Américains ont mis l'Iran sur une liste noire.
Exact. Et tu vois, cette histoire-là m'amène à parler des traités d'extradition, puis à parler, exemple, de Mukendi, le pasteur Mukendi, qui est réfugié au Congo présentement, qui lui échappe à la justice. Je ne sais pas si tu as suivi ce que Clara Loiseau a fait là, au cours des dernières semaines dans le Journal de Montréal.
Ben oui.
Mais il se rit de la justice canadienne d'une manière, là. Écoute, il publie des vidéos sans cesse sur son site Facebook, des prêches, fait des affiches invitant là un gros party du jour de l'an, exemple, parce qu'il est à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et non le Congo-Brazzaville, juste de l'autre côté. Puis, le problème avec ce que la justice canadienne est en train de mettre en place, c'est que il n'y a pas de traité d'extradition.
Il n'y a rien à faire. Là. On peut pas l'amener ici. Là.
Non, on peut souhaiter, en tout cas, objectivement souhaiter pour la justice là que M. Mukendi fasse une erreur. C'est probablement présentement l'une des seules manières de rapatrier Paul Mukendi, c'est qu'il fasse une erreur et qu'il fasse une escale lors d'un voyage dans un pays qui a un traité d'extradition avec le Canada. C'est ce qui est arrivé avec Meng Wanzhou, Huawei et les Américains quand Meng Wanzhou a mis le pied au Canada, puis les procédures d'extradition se sont déclenchées. C'est arrivé avec le docteur Porter aussi lorsqu'il a mis le pied, Arthur Porter, du responsable de la fraude entre autres au CUSUM, lorsqu'il a mis le pied au Panama et le Canada possède d'ailleurs l'équivalence du crime et le traité d'extradition. C'est là qu'on a pu l'arrêter. Alors tu vois, c'est ça, c'est un peu complexe le monde des traités d'extradition, mais pour Paul Mukendi entre autres là, écoute, on peut
ici. C'est quand même hallucinant qu'il a pu sortir du pays là. Tu sais, c'est ça la grosse question. Comment il a fait pour sortir du pays
moi,
là?
Bonne idée, Richard. J'ai pas bonne idée qui ressemble à une confirmation, mais je garde ça pour une prochaine.
Je parlais à quelqu'un, quelqu'un qui travaille dans le milieu judiciaire, OK? Je dirais pas c'est qui parce que c'est une discussion privée. Et elle me disait que pendant le couvre-feu, c'est fou à quel point il y avait beaucoup moins d'arrestations parce que les crimes sont souvent commis le soir. Elle dit, c'est un gros, personne n'en parle, c'est un gros secret de polichinelle, mais le couvre-feu a aidé énormément à diminuer la criminalité à Montréal.
C'est sûr. Puis toutes les ventes de stupéfiants aussi, là, c'est bien rare que ça se fasse en plein jour, là, lorsqu'on parle de la vente au détail, entre guillemets, là. Puis les passages à tabac, etc. Donc, oui, effectivement.
Écoute, le jeune qui a été tué, Amir Benayad, d'une balle sur le plateau Mont-Royal, aurait été la cible de... En fait, c'est une erreur, c'est ça?
Hey, je te jure.
C'est une erreur, Christy. C'était même pas lui qui était ciblé.
Et encore là, je trouve qu'on n'en parle pas tant que
ça. Non.
Je trouve qu'on a, et là, puis c'est drôle, j'ai revu le reportage à TVA ce week-end où on place la photo de tous ceux qui ont été tués l'une à la suite de l'autre, puis c'est un portrait à faire frémir que ces jeunes-là, dont, en fait, pour l'instant, là, on a 4 jeunes qui avaient rien à voir avec les conflits de gangs de rue, là, en tout cas, ou pas nécessairement le conflit qui les a amenés dans la mort, qui ont été des victimes innocentes. Je voyais ses amis, je voyais sa famille. Écoute, c'était à arracher le cœur en fin de semaine. Il y a eu une vigile là pour souligner d'ailleurs sa mémoire. Ah là là.
Non, 17 ans, c'est épouvantable. Il sort avec des amis puis se fait tirer comme ça, Christy, sur le plateau de Mont-Royal, un coin tranquille. Puis en même temps, c'était même pas lui qui était visé. Une erreur, supposément. C'est vraiment absolument dégueulasse. Écoute, en terminant, un mafieux qui était arrêté en Espagne grâce à Google Maps. C'est quoi cette histoire?
Ça date un peu, mais je voulais te la raconter okay. Car c'est mon fonds de commerce. Ça a été publié la semaine passée par l'agence Françoise puis repris dans le journal. Je l'avais mis dans mes sujets, puis là, ben, je me dis, faut absolument ramener ça parce que c'est trop bon. C'est un mafieux qui était en fuite depuis une vingtaine d'années, qui s'était échappé d'une prison, donc d'Italie. C'est un membre influent de la mafia. C'est Gioacchino Gamino. Il a 61 ans. Et là, il est appréhendé par la police espagnole en décembre dernier, le 17 décembre dernier, à Galapagar. C'est au nord de Madrid. Comment il a été appréhendé? C'est qu'il y a un cliché de Google Maps qui a été diffusé, qui remontait déjà à plusieurs années, là, à 2018, et sur lequel on voyait un homme devant un petit magasin de fruits et de légumes à Galapagar. Et là, les enquêteurs commencent à regarder ce cliché-là. L'histoire ne dit pas, par exemple, qui leur fournit le cliché, puis pourquoi ils s'en vont vers le cliché Google Maps, mais en tout cas, ils regardent ce cliché-là, et là, ils se disent, mais c'est lui. Et là, il se dirige tranquillement, il suit la piste tranquillement, et là, il réalise qu'il vit sous un faux nom, et il l'arrête. Puis là, ben écoute, il a été extradé là vers l'Italie maintenant. Puis c'est ça, petite épicerie de quartier, bye bye. Puis c'est tout. On pense qu'ils sont si ben brillants des fois, mais pas tant.
Par Google Maps. Écoute, c'est incroyable. Et en terminant rapidement, je sais pas si tu as vu ce week-end, on se parlait l'autre jour de l'influenceuse qui a fait beaucoup d'argent en vendant ses pets. Là, c'est une influenceuse qui a fait $1 million en faisant le chien sur OnlyFans et TikTok. Elle se promène à quatre pattes, elle court après des balles et des frisbees. C'est une ancienne opticienne, elle a tout lâché. Et maintenant, elle fait le chien comme ça et elle a fait $1 million. Elle se fait filmer, elle marche à quatre pattes, puis quelqu'un la tient en laisse, et elle fait le chien, et elle est devenue millionnaire. On a choisi un mauvais job.
Hey, vraiment, vraiment, mais je peux juste te dire aussi qu'il y a une influenceuse au début de l'année qui a été arrêtée pour une fraude $1 million. Fait qu'il y en a une qui a gagné $1 million, mais il y en a une qui a été arrêtée pour une fraude $1 million. C'est une ancienne mannequin qui s'appelle Bianca, je sais pas si tu prononces son nom comme il faut, Shea, qui a été appréhendée par les États-Unis. Elle a été accusée de 2 chefs d'accusation de fraude. Elle aurait floué des investisseurs pour $1 million. Une plainte qui a été déposée en 2018, parce que là, bon, ben, puisqu'elle était influenceuse, elle demandait aux gens d'injecter de l'argent dans son entreprise qui s'appelle Sporté Loup. Mais finalement, l'entreprise n'existait pas tant que ça.
Le merveilleux monde des influenceurs. Merci beaucoup, Félix. À demain. Salut.